grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Avons-nous vraiment conscience des risques que nous prenons quand nous naviguons avec nos écrans? Des dangers que nous courons quand nous exposons nos données personnelles, notre identité, notre vie sur les réseaux sociaux, sur les sites marchands ou institutionnels? Sans tomber dans la paranoïa, quelles sont les menaces réelles quand nous achetons en ligne, quand nous recherchons notre moitié sur une appli, quand nous consultons un site de voyage, quand nous dialoguons avec un objet connecté ou lorsque nous utilisons notre smartphone pour payer nos courses? Quels sont les pièges récurrents? Comment éviter les traquenards que nous tendent les agresseurs invisibles? Comment éviter que nos mots de passe soient subtilisés, nos identités usurpées, nos courriels piratés? Élément de réponse avec l'un des meilleurs spécialistes en cyberprotection, Sébastien Dupont. Si vous vous êtes déjà fait arnaquer sur Internet, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, qui porte chaque semaine un regard singulier sur notre société. À la une cette semaine.
Eh bien, pas d'arnaque, on vous parlera du grand débat et des annonces d'Emmanuel Macron.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Sébastien Dupont.
Bonjour Ali,
vous
bonjour à tous.
Vous êtes un spécialiste reconnu en cyberdéfense, vous êtes en charge de la sécurité numérique pour de grands groupes, vous avez notamment travaillé pour le ministère de la Défense et vous publiez chez Flammarion « Vous êtes fou d'aller sur Internet ». Tablettes, smartphones, ordinateurs, objets connectés, nous sommes fous de laisser ouverts tous ces outils numériques, de les laisser ainsi à la portée des cyber-escrocs?
J'ai cette impression que nous sommes fous parce qu'en fait, nous n'avons pas passé le code de la route, nous n'avons pas les bonnes pratiques et finalement, on se trouve un peu démunis. Et vous avez beau en parler autour de vous, vous allez vous apercevoir que chacun s'est retrouvé piégé à travers ses oui-oui, son téléphone, son smartphone ou son ordinateur.
Oui, vous les appelez oui-oui, nos tablettes, nos smartphones, en référence au personnage de Denight Blyton, ce personnage qui opine du chef, qui est toujours content, un peu comme Julien Bisson. Sébastien Dupont.
Mais oui, parce qu'en fait, on nous a fait une promesse. C'était la promesse du numérique, du merveilleux, du monde magique, du monde de oui-oui. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelques angles morts, quelques petits inconvénients, et qu'il faut en parler, parce que sinon, on se retrouve piégé. Et ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent piégés. Ce sont les gentils, ceux qui auraient besoin d'être aidés, ceux qui sont isolés. Et ça me désole. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette prise de parole.
Comment expliquez-vous notre naïveté?
Alors, il y a tous les profils. Et c'est vrai que ceux qui se font piéger, ces malheureux, ce sont souvent les plus gentils. Quand aujourd'hui, vous recevez un mail où on vous dit « Voilà, je suis à l'autre bout du monde, j'ai ma petite fille qui a besoin de se faire opérer, il me manque 10 000 euros ou 5 000 euros », eh ben, des fois, vous êtes pris de compassion et vous le faites. Quand vous êtes une femme qui a 40 ans, je prends un exemple fictif, on va les citer tous ces exemples, vous êtes en quête d'amour et vous avez une personne sur un site de rencontre qui vous promet vent et merveille, eh ben, vous avez envie d'y croire à l'amour. Et c'est important d'y croire à l'amour. Et là, vous êtes susceptible de vous faire berner et piéger.
Alors, vous avez pourtant hésité à écrire ce livre. Pour vous, c'était un peu comme si un serrurier délivrait ses secrets pour crocheter une serrure.
Ben c'est vrai, on hésite toujours un petit peu parce que certains pourraient être inspirés pour créer certains pièges. D'ailleurs, on va pouvoir parler en ce moment avec le drame de Notre-Dame. Il peut y avoir certains qui sont tentés par créer des pièges et récupérer un avantage à ce drame qui nous touche tous. Et donc, c'est vrai que je me suis posé des questions et il y a certaines choses que je n'ai pas mis dans le livre, évidemment. Mais je pense que c'est le minimum de sensibilisation sur lequel on devrait avoir quand on a un téléphone ou un ordinateur.
Quel est votre travail exactement au sein des grands groupes et des grandes institutions étatiques avec lesquelles vous collaborez?
Alors, j'ai travaillé sur la construction du Pentagone à la française. Donc, on est parti d'un terrain vague et il a fallu construire cet hexagone. C'était une aventure incroyable sur laquelle je garde d'excellents souvenirs. Et en ce moment, je travaille pour des sociétés du CAC 40. Alors, l'objectif, c'est de protéger les données des clients. On va prendre un exemple. Vous avez un service d'assurance où vous achetez en ligne sur un site e-commerce. Je travaillais dans la grande distribution il y a quelques années. Et vos données sont dans l'entreprise et il faut qu'on mette en place des centaines de de mesures de sécurité pour pas qu'elles se retrouvent divulguées à l'extérieur, soit par un pirate, soit par un risque interne.
Alors, nous avons fait le choix de numériser l'ensemble de nos activités professionnelles, personnelles, et vous écrivez que notre survie est en jeu, que notre vie quotidienne est en péril face à notre ignorance des risques numériques et que notre liberté est même également en danger.
Alors c'est vrai que le livre va crescendo, c'est-à-dire qu'au début on passe sur des mesures très pratiques, on va en parler, les mots de passe, etc. Prendre le temps de configurer ces oui-oui, ça prend 10-15 minutes pour configurer, c'est 2 minutes pour configurer un Facebook, pour évaluer le niveau d'exposition, est-ce que vous l'exposez qu'à vos amis ou au-delà, c'est important de se poser cette question. Et ensuite, sur la fin du livre, j'évoque les risques sur le plus long terme, et notamment à ceux qui ont un niveau de maturité très élevé, qui sont un peu en mode parano, et je propose notamment des choses très concrètes, c'est que si vous avez des données sensibles sur des clés USB, ne croyez pas quand vous avez effacé que la donnée va disparaître. Le seul moyen, c'est d'utiliser des logiciels spécialisés ou de détruire la clé USB.
Nous ne sommes pas assez paranoïaques.
Il faut mettre le curseur au bon niveau. À chaque fois que vous allez discuter dans votre cuisine, l'objectif n'est pas de mettre votre téléphone dans le frigo, mais il y a 2-3 mesures de bon sens. On commence par les mots de passe. On peut également citer les sauvegardes. Est-ce que vous savez que vis-à-vis du risque de ransomware...
Alors, c'est quoi ça
alors, il y a des sortes de virus qui vont bloquer l'accès à vos données. Alors, c'est un an ou deux où la menace était très forte, mais elle est encore présente aujourd'hui. Et le seul moyen de se prémunir contre ça, à part les logiciels de sécurité de type antivirus, c'est de faire des sauvegardes. Donc, on le dit pas assez, il faut faire des sauvegardes, je pense surtout aux petits entrepreneurs. Les petits entrepreneurs se sont trouvés, certains ont mis la clé sous la porte. Et d'autres, alors j'ai une histoire, j'ai une société, ils étaient 300, ils se sont retrouvés avec l'ensemble, ils ne pouvaient plus accéder à toutes leurs données, donc on passe les données commerciales, les données de comptabilité, etc. Et ils avaient oublié d'enclencher la cassette de sauvegarde dans le système de sauvegarde, donc il faut également tester et vérifier que les sauvegardes sont bien réalisées.
Est-ce que les cybercriminels, les cyberescrocs auront toujours un temps d'avance sur nous ?
Alors c'est une
idée reçue ou pas ?
C'est une question que l'on peut se poser, et quand on en discute avec les services de police, ils en conviennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut imaginer que les mafias, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment gagner de l'argent avec ces arnaques. Évidemment, tout cela est répréhensible par la loi. Il ne faut pas que ça donne des vocations. Et les gens, ces personnes malveillantes, se coordonnent et montent de véritables arnaques. Alors, quand on lit les rapports de police, il y a des choses incroyables. Celui qui m'a pas amusé, mais qui est assez croustillant, c'est le FBI qui l'a démantelé. Et ce sont des jeunes qui ont monté une organisation pour vendre un logiciel d'espionnage. Ce logiciel d'espionnage a été téléchargé 400 000 fois dans le monde. 400 000 fois. Et il y a une jeune vedette américaine, une jeune dame qui s'est fait piéger avec ça. Donc elle a porté plainte. C'est là que le FBI a remonté toute la filière. Et ils étaient tellement bien organisés qu'il y avait le service commercial, ceux qui avaient créé le logiciel, etc. Voilà, donc il y a régulièrement des arnaques. Et on peut citer en ce moment, je suis impatient de voir si suite au drame de Notre-Dame, vous savez qu'il y a des dons en ligne qui peuvent être faits sur des sites qui ont été annoncés officiellement. Je les ai sous les yeux, on peut presque les citer.
Il y a la Fondation du Patrimoine.
Exactement, la Fondation du Patrimoine, qui a un site également, rebâtir Notre-Dame de Paris.fr. Et il va falloir se méfier des appels à mettre de l'argent sur des cagnottes, sur des personnes qui ne sont pas de confiance, parce que vous ne savez pas qui y a au bout du fil. Et là, on va voir la réactivité des arnaqueurs. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces arnaques laissent systématiquement des traces.
Des traces numériques.
Des traces numériques. Et donc, on peut plus souvent remonter jusqu'à eux.
Sébastien Dupont, vous feriez un formidable cybercriminel. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé du côté obscur de la force ?
Comment voulez-vous que je réponde à cette question ? Non, mais mon métier, je suis bien plus valorisé en essayant de défendre les données des clients, mais je vous apporte une réponse. Et vous avez bien raison de me taquiner, de venir me chercher. Maintenant, il faut à tout prix éviter aux jeunes de vouloir se lancer là-dedans, parce que c'est répréhensible par la loi. Et nous serons tous plus heureux, c'est un petit peu idéaliste, mais un peu de bienveillance et un petit peu moins d'agressivité dans ce monde, ça fait quand même du bien.
Bonjour Pascal Tonnerre.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes le fondateur et le président du réseau anti-arnaque, en partenariat avec l'UFC Que Choisir. Est-ce que vous assistez à une forte progression des arnaques, des escroqueries via les outils numériques ?
Ah oui, oui, c'est évident. Aujourd'hui, je dis souvent que l'outil Internet a permis de recycler des vieilles méthodes d'escrocs, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent couvrir évidemment beaucoup plus de personnes, et puis à des coûts moindres. Donc effectivement, je vous confirme, c'est chaque année, nous battons nos records.
Quelles sont les méthodes les plus fréquentes, vieilles méthodes recyclées aujourd'hui sur Internet ?
Un petit peu ce qu'évoquait tout à l'heure Sébastien Dupont, à savoir tout ce qui va être message frauduleux, le phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage, le scamming qui est vraiment des scénarios un petit peu bidons, loterie, testament, appel d'un ami en détresse. Donc ces grands classiques fonctionnent toujours, d'autant que nos escrocs savent évoluer, savent se former.
Est-ce qu'il existe un profil type de victime de cyber-escroquerie que vous avez pu repérer grâce à votre vaste réseau anti-arnaque ?
Mais nous avons aujourd'hui, sur une période de crise économique, évidemment, et puis nous avons repéré ces offres d'emploi qui paraissent miraculeuses, à savoir qu'on vous propose un emploi pas loin de chez vous, sans qualification, très bien payé, avec une avance. Donc là, déjà, il y a des signaux rouges qui doivent s'allumer. Et puis, donc, vous faites affaire, et puis finalement, on vous demande soit d'entretenir une maison qui sert de résidence secondaire ou qui va être vendue, soit de réceptionner des colis à domicile. Et puis, on vous communique évidemment votre RIB ou IBAN. Et puis, vous allez avoir tout de suite une remise de chèque qui va être directement versée par l'escroc. Et puis, l'escroc vous dit « Oh, je me suis trompé, vous allez me restituer une partie », ce que vous faites immédiatement. Et alors, ce chèque va revenir à payer et nous arrivons à une situation complètement dramatique au niveau psychologique, au niveau économique.
On efface systématiquement ce type d'annonce d'emploi quand ça arrive par courriel. On les efface systématiquement, Pascal Tonnerre ?
Ah ben oui, moi de toute façon nous les recensons, nous le répertorions, hein, nous avons nous au contraire nous recherchons dans nos messageries avoir le maximum de produits polluants, avec bien sûr les protections qui vont avec, de façon à faire constamment un répertoire et du coup aussi de voir l'évolution des escrocs, puisqu'aujourd'hui ils sont de plus en plus performants au niveau de la maquette, au niveau du contenu. Et par exemple, la dernière trouvaille, c'est tout simplement, imaginons les escrocs qui ont réussi à obtenir le versement de sommes d'argent par le biais de l'expérience de la fausse offre d'emploi. Et du chèque qui se révèle impayé, parce qu'entre-temps il a été payé par mandat ou par recharge de carte de crédit, et bien qu'est-ce qu'ils font ces escrocs ? Un an après, ils recontactent leur victime en faisant passer soit pour le procureur, par la police, ou pourquoi pas par une association de consommateurs, et du coup ils sont crédibles, parce qu'ils vont dire, écoutez, nous savons qu'à telle date vous avez payé telle somme à telle personne, et puis nous l'avons arrêté, et bien écoutez, nous allons pouvoir vous rembourser, et évidemment, je donne en 1000, qu'est-ce qu'ils vont réclamer ? Soit une cotisation, soit des frais de procédure, et la victime repart dans le cirque infernal de l'escroc. D'ailleurs, que nous appelons des brouteurs, hein, qui vont brouter votre capital, votre épargne, tout l'argent disponible.
Votre site, c'est arnaque-info. Comment fonctionne ce site ?
Un site thématique, et puis nous avons bien sûr notre page Facebook, où là c'est plus une page chronologique, ça veut dire que toutes les semaines, nous sélectionnons 4 mises en garde, que nous mettons en ligne directement avec les preuves à l'appui, puisqu'en matière d'arnaque, nous considérons que la prévention sera beaucoup plus efficace que la répression.
Quelle est la grosse mise en garde, tiens, d'ailleurs en ce moment, Pascal Tonnerre ?
Nous avons créé comme ça des quelques maximes pour attirer l'attention du consommateur. Par exemple, pour les offres d'emploi, on dit nous travaillons pour être payés, nous ne payons pas pour travailler. Et puis également, ce que j'aime bien, c'est ce qui est gratuit n'existe pas. Quand vous avez sur Internet des messages où on vous promet des cadeaux gratuits, des smartphones à 1 €, ce n'est pas une logique économique. Donc il faut qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume dans le cerveau des consommateurs. Et je rejoins tout à l'heure Sébastien Dupont qui disait qu'il y a un code de la route mais qui n'est pas respecté. Moi je dis souvent que l'internaute, autant il sera méfiant peut-être dans la rue, chez des commerçants physiques, autant sur Internet, il n'a pas encore pris l'habitude d'avoir des signaux d'alerte et d'être précautionneux.
Sébastien Dupont, votre regard sur ce réseau qui lutte contre les arnaques, notamment sur Internet.
Alors, c'est génial quand on sait que cet effort, bravo Pascal Tonnerre, je ne vous connais pas, mais...
d'autant plus facile de vous remercier, c'est que ça fait 10 ans que ce réseau existe. Ça pallie à quelque chose qui n'existe pas au niveau de l'État, donc c'est bien qu'au niveau qui n'existait pas il y a quelques années, il y a des choses qui commencent à se construire depuis quelques temps. Donc bravo, et moi-même je vais rapidement m'inscrire sur Facebook sur ce réseau. Merci beaucoup Pascal.
Mais Pascal Tonnerre, il est difficile tout de même de trouver une aide pratique concrète issue du gouvernement, de l'État. On peut tout de même citer le site cybermalveillance.gouv, mais tout ça est un peu faible face aux outils redoutables des cyber-escrocs.
Alors, c'est vrai qu'ils ont aussi un outil qui est fabuleux, c'est leur centre de surveillance de commerce électronique qui est basé à Morlaix en Bretagne et qui est performant, mais effectivement, nous voyons très bien, nous, au niveau des arnaques de la consommation, que lorsque les consommateurs veulent aller déposer plainte, ben, c'est pas la priorité du moment, et puis, du coup, on les ramène un petit peu chez eux, alors qu'ils sont souvent en détresse psychologique. Donc, effectivement, c'est un problème de moyens. Je dis souvent que l'arnaque de la consommation aujourd'hui n'est pas prise en compte au niveau où on devrait le faire, avec donc tous les dangers bien sûr qui apparaissent à côté.
Pascal Tonnerre, rappelez votre page Facebook et votre site.
Donc en fait il suffit de taper sur un moteur de recherche réseau anti-arnaque et puis vous arrivez directement avec des liens sur notre site ou sur la page Facebook évidemment.
Merci beaucoup Pascal Tonnerre. Allez, si vous vous êtes fait piéger, escroquer sur internet, si des cybercriminels ont pillé vos données personnelles, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam, pow, flop, wheel.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait
vlam,
ça fait
splash,
et ça fait
stop,
ou bien
bang,
ou
on,
parfois même
zip, shabam, pow, flop, wheel.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
fang,
des
flop,
et des
zip, shabam, pow, plop, wheel.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
wind
quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
flop,
et des
zip, shabam, pow, blop, wheel.
N'aie pas peur bébé, agrippe-toi, je suis là,
crash,
pour te protéger,
shack,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
smack, shabam, pow, blop, whiz, shabam.
Serge Gainsbourg, Comic Strip.
Oulala, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box.
Grand bien vous fasse.
Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook.
Sur France Inter.
10h26, avons-nous vraiment conscience des risques que nous prenons quand nous exposons nos données personnelles, notre identité, notre vie privée sur Internet? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Avec nous ce matin, l'un des meilleurs spécialistes de la cybersécurité, Sébastien Dupont. Vous venez donc de publier « Vous êtes fou d'aller sur Internet » et vous me disiez, hors antenne, que nous sommes souvent piégés par nos émotions.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croit que c'est la technologie qui nous piège, mais en fait, il y a toute une partie humaine. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site d'investissement participatif, vous avez toujours d'investissement, pardon, il y a eu beaucoup d'arnaques là-dessus. Vous êtes piégé par l'appât du gain. Donc finalement, c'est notre côté un peu cupidité qui nous fait se piéger. Il y a également l'empathie quand vous donnez de l'argent à quelqu'un pour l'aider, et finalement c'est une arnaque. Et puis également par le désir. Quand vous êtes sur un site de rencontre, il y a énormément d'arnaques, que ce soit le site de rencontre lui-même qui vous arnaque parce qu'il fait payer les garçons pour discuter avec des robots, ce que je n'ai jamais compris, comment personne s'alarme de cette incohérence ou à y chercher à comprendre quelque chose là-dessus. Voilà, donc ce qu'il faut faire attention, c'est à nos émotions et surtout ne pas prendre de décision dans l'urgence.
Bonjour Philippe, bienvenue, vous appelez de Paris.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour, alors votre question.
Bonjour.
Alors ma question, elle est en deux volets. La première question, c'est est-il raisonnable de mémoriser ses cartes sur des sites d'achat tels que eBay ou Amazon et de les laisser en permanence, ou vaut-il mieux les déconnecter à chaque fois que l'on a fini de faire une transaction sur ces sites? Et la deuxième question, d'une façon plus générale, quelle est la sécurité au niveau des cartes bancaires sur les grands sites de commerce électronique?
Très bonne question de Philippe. Sébastien Dupont.
Alors, faut-il enregistrer son numéro de carte bancaire sur les sites e-commerce? C'est une très bonne question. Vous avez le choix entre deux. Il faut prendre une décision. Soit vous voulez avoir de la facilité, de la rapidité, et vous devez accepter le risque que s'il y a un piégeage, un vol, une vulnérabilité sur le site de l'e-commerce, votre numéro de carte bleue soit fuite et puisse être utilisé par des pirates. Donc c'est un risque que vous devez accepter. Moi, personnellement, je considère que retaper mon code à chaque fois, c'est pas... je prends le temps. Voilà, donc je n'ai pas encore fait le pas, même si je suis quelqu'un qui prend pas mal de risques sur les réseaux, justement pour découvrir ces risques.
Donc, j'ai pas compris, vous retapez votre code à chaque fois?
Moi, à chaque fois, je ne fais pas, je ne laisse pas enregistrer sur les sites mon numéro de carte bleue. Voilà, c'est une gestion de risque. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est un lien avec votre deuxième question, et c'est là que votre question est très pertinente. C'est quel est le niveau de sécurité des sites de e-commerce? Il y a deux discours à avoir. Le premier discours, c'est se dire il y a des personnes compétentes dans ces sites et ils font de leur mieux. Le deuxième discours, c'est de dire est-ce que ces sites peuvent être sécurisés? Il faut imaginer qu'en 2018, il y a eu 17 000 failles de sécurité technologique. À chaque fois qu'il y a une faille de sécurité, ça veut dire que le pirate, il a une porte qui est ouverte pour qu'il puisse récupérer les données. Pour simplifier. Donc, mon intime conviction, c'est que l'informatique ne pourra jamais être à l'état, enfin, ne peut pas être aujourd'hui à l'état des technologies sécurisée entièrement. Donc, il faut accepter un risque. Après, qu'est-ce qui nous éclaire sur ce risque, pour terminer? C'est le nombre d'incidents qui sont déclarés. Et c'est pourtant pour ça qu'il faut qu'il y ait de la transparence de la part de ces sites de e-commerce, et je pense qu'elle n'est pas suffisante aujourd'hui, pour qu'ils nous exposent tous les problèmes et que collectivement, on puisse travailler dessus.
Merci beaucoup, Philippe, pour votre question. Julien Bisson.
Oui, une question peut-être de néophyte, mais la plupart des sites d'e-commerce aujourd'hui ne se contentent pas simplement d'avoir notre numéro de carte bancaire. On reçoit maintenant très souvent un SMS qui confirme un paiement. Est-ce que c'est une sécurité supplémentaire, une sécurité suffisante?
Alors, vous parlez effectivement de la seconde authentification, et c'est une très bonne question, c'est-à-dire que dans 95% des cas, peut-être même plus, elle répond à un besoin de sécurité. Alors, le risque, c'est quoi? C'est qu'on vous vole votre mot de passe. Et donc, avec cette seconde authentification que vous recevez vous seul sur votre téléphone portable, parce que vous êtes censé être le seul détenteur de votre téléphone portable, ça assure finalement une sécurité, puisque c'est bien vous qui êtes en train de faire l'achat. Ceci dit, il y a eu une faille là-dessus que des pirates ont découvert. Cette faille qui a été publiée donc et rapportée dans des rapports de police, ce qui me permet de la dire à l'antenne, sinon je la dirai pas, c'est que en fait, il y a une arnaque qui consiste à appeler votre opérateur téléphonique, à dire que vous avez perdu votre téléphone et à récupérer une carte SIMS. Le pirate va récupérer la carte SIMS à votre place et du coup, c'est comme s'il avait votre téléphone et il a du coup, s'il a déjà volé vos mots de passe avec une attaque de type phishing, il peut du coup avoir la seconde authentification. Donc, les sites bancaires de e-commerce sont en train d'améliorer et de proposer de nouveaux systèmes de sécurité là-dessus.
Philippe, vous avez une question complémentaire?
Oui, ma question était en fait pilotée par les mails que je commence à recevoir. Je me suis inscrit il y a un peu moins d'un an sur eBay et sur Amazon, et je reçois maintenant des messages me disant qu'il y a une alerte sur mon compte PayPal, je n'ai jamais eu de compte PayPal, ou bien qu'on a supprimé mon abonnement Netflix alors que je n'ai jamais eu d'abonnement Netflix. Et je me demandais si ces messages n'étaient pas liés au fait que mon numéro de carte était mémorisé sur un de ces sites.
C'est tout à fait possible, soit votre numéro de carte, soit vos mots de passe qui ont été piratés. Et de façon très... Alors, un, il faut écrire et à ces sites. Ils se sont améliorés sur les services clients, sur ces questions de sécurité. Il y a encore des efforts à faire. Et je vous invite à aller sur un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle HIBP, Havai Bean Point. H-I-B-P. Havai Bean Point, est-ce que je me suis fait poutrer en anglais, pour voir si votre mot de passe n'a pas déjà été piraté. Et il y a des gens qui ont collecté l'ensemble de ces mots de passe piratés. LinkedIn, par exemple, s'était fait pirater tous ces mots de passe. Et donc, vous pouvez, en saisissant votre adresse email, pas votre mot de passe, votre adresse email, le site va vous dire si vous avez fait partie des emails qui ont déjà été piratés. Et donc, du coup, il faut prendre une action de changer votre mot de passe.
HIBP, c'est vrai que j'y suis allé et c'est redoutablement
efficace, hein.
Efficace et éclairant. Merci beaucoup, Philippe, pour votre question. Si je paye mes courses avec mon smartphone, c'est-à-dire avec ma carte bancaire dématérialisée, je le fais assez souvent, sans contact, est-ce que je prends des risques ?
Alors, vous faites bien de le faire parce que ça facilite la vie. C'est un peu comme la carte sans contact. On est très content d'avoir la carte sans contact et d'éviter de sortir ces pièces de monnaie. On n'en pouvait plus de faire la queue pour retrouver les 10 centimes, etc. Il y a quelques risques encore là-dessus, mais grosso modo, il n'y a pas de menace, donc il n'y a pas besoin de s'alerter là-dessus. Il faut les utiliser.
On demande mon empreinte digitale. Je ne peux pas, par exemple, payer avec mon smartphone si je n'ai pas mon pouce posé sur l'écran d'accueil de mon téléphone.
Alors, c'est votre téléphone qui vous demande ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ça remplit la fonction. C'est-à-dire que peu de gens ont alerté sur les arnaques liées à ça. Donc, vous pouvez continuer.
Sébastien Dupont, quelles sont les solutions les plus simples pour éviter de se faire piéger lorsque l'on fait des achats en ligne? Quelles sont les principales mesures à prendre? Je rappelle tout de même que selon des chiffres récents de la Fédération d'e-commerce et de vente en ligne, les Français ont dépensé sur Internet 90 milliards d'euros en 2018. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se faire piéger?
Alors, le plus gros risque, c'est le risque de phishing ou hameçonnage en français. C'est-à-dire que vous recevez un mail qui vous semble venir de votre banque ou de votre site e-commerce ou de votre opérateur. Il va vous demander des mots de passe, des données à caractère personnel. Et c'est là qu'il faut être très vigilant. C'est-à-dire quand vous recevez un message, et aujourd'hui, il faut se dire que ce message potentiellement est un faux, est un hoax quelque part. Donc, il faut prendre des chemins. Soit que vous avez déjà dans votre navigateur enregistré des chemins de confiance, soit il faut directement aller dans votre navigateur, vous allez dans votre navigateur Quant, et vous saisissez votre site bancaire et vous passez par le chemin principal.
C'est quoi ce navigateur ?
Alors, je cite ce navigateur, c'est une alternative à Google. Vous savez qu'aujourd'hui, les GAFA ne jouent pas entièrement le jeu, en tout cas ont dû mettre un certain délai pour répondre aux demandes des gouvernements qui sont nos représentants pour porter des demandes. Et aujourd'hui, il y a une initiative européenne et française qui est un navigateur Quant.
Q-W-A-N-T.
A-N-T, si on ne dit pas de bêtises. Et c'est un navigateur qui fonctionne très bien, on a des très bons retours d'expérience là-dessus. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui... Le problème de Google, c'est qu'il n'a pas de concurrence. Donc, il n'a pas de concurrence. Il joue le jeu économique. On croit qu'ils ont une morale, mais finalement, le business, il est amoral. Et c'est comme ça, c'est des faits. Et à nous de jouer notre rôle de consommateur. Donc, il faut faire jouer la concurrence pour qu'on ait le meilleur service possible.
Et si je viens de me faire piéger lorsque j'achète en ligne, eh bien, on peut appeler le numéro interbancaire ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est le 0892 705 705. Bonjour Dominique, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Vous appelez de Limoges, bienvenue.
C'est ça, bonjour.
Alors, quelle est votre question ?
Alors, j'ai créé un document Word pour y mettre mes identifiants et mes mots de passe. Mais je l'ai protégé lui-même par un mot de passe. Donc, je voudrais savoir si vraiment ça offre une sécurité ou non. Et ma deuxième question était concernant les drives et les clouds. Si on y dépose également des documents confidentiels, quelle sécurité offre-t-il ?
Sébastien Dupont,
ce sont des excellentes questions. Ce sont des questions très pratiques, c'est-à-dire où stocker ces mots de passe. C'est une vraie problématique, pourquoi ? Et c'est une problématique que l'on rencontre tous. On a tous en moyenne une douzaine de mots de passe. Et on nous demande d'avoir des mots de passe différents sur les sites. Comment on fait ? On ne nous a pas donné aujourd'hui de solution. Il y a trois solutions en fonction de votre maturité en termes geek, de facilité avec l'outil informatique. Ceux qui sont le plus concrets peuvent faire ce qui est fait là, c'est-à-dire la liste de mots de passe, soit cachée dans votre placard, à domicile, etc. Je considère, c'est un point de vue personnel, que c'est une solution qui correspond à un certain nombre d'individus. Tout le monde n'a pas une mémoire de champion de Memento. Donc, les listes, c'est une première chose qui peut être faite. La deuxième, c'est d'avoir un logiciel qui va jouer le rôle de liste. C'est des logiciels de sécurité qui vont enregistrer vos mots de passe. Ça, je pense qu'il faut le réserver aujourd'hui pour ceux qui sont les plus avertis avec l'outil informatique, qui sont un peu des pionniers. Et on espère que dans quelques années, on pourra tous utiliser ces logiciels. Voilà. Et enfin, ce que je recommande, c'est d'utiliser un bon mot de passe. Un mot de passe facile à deviner.
C'est quoi un bon mot de passe ?
Alors, je vais vous donner mon mot de passe.
Ah ben allez-y,
demandez-moi mon, si vous me
c'est
demandez.
Quoi, c'est quoi votre mot de passe ?
Si vous me demandez mon mot de passe, je vais vous le donner. Alors, mon mot de passe, c'est... Vous prenez... C'est ce qu'on appelle une passe-phrase. Vous prenez quelque chose qui est facile à vous rappeler, quelque chose qui est facile à vous rappeler. Pour moi, c'est « j'ai faim 4 fois par jour ». Alors, « j'ai faim 4 fois par jour », en fait, il faut... Je l'ai synthétisé, ça fait j'ai faim, F-A-I-M, 4X, slash, jour. Ça fait 9 caractères et je suis sûr que je ne peux pas l'oublier. J'ai faim 4 fois par jour. Là, il y a une toute petite erreur vis-à-vis des pirates, une petite faille dans mon mot de passe, c'est qu'il y a un mot du dictionnaire. Et ça, ce qu'il faut imaginer, c'est quand dans votre mot de passe, quand il est mal construit, c'est quelques secondes pour le pirate, pour le deviner, parce qu'ils ont des moulinettes et ils testent des fois au hasard un ensemble de mots de passe. Donc là, le mot « fin », il faut que je fasse une faute d'orthographe. C'est le seul endroit où il est recommandé de faire une faute d'orthographe. Et je vais enlever, par exemple, le « i ». Mais si j'enlève le « i », ça pose un problème parce que c'est un mot en anglais qui veut dire quelque chose. Donc je vais enlever le « a » et là, c'est bon. Donc là, j'ai un mot de passe qui est robuste. Pourquoi ? Parce qu'il a 3 parmi 4. Il a 3 parmi 4, c'est entre la majuscule, la minuscule, les chiffres et les symboles. Voilà. Et là, nous on a des abacs. Hein, on sait qu'en fonction de comment est construit votre mot de passe, le pirate va mettre plusieurs années ou pas à deviner le mot de passe.
Le grand principe, c'est une majuscule, une minuscule, éviter un mot du dictionnaire si possible, des chiffres et des caractères ou des symboles.
Oui.
Des caractères spécifiques ou des symboles.
Oui, mais c'est 3 parmi 4. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 que vous venez de citer.
Moi, je mets les 4, je suis un peu parano.
Mais voilà.
Merci hein, beaucoup, Dominique, de nous avoir appelé. Allez, il est temps de retrouver notre cher Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, à la une du 1 cette semaine.
Eh bien, cette semaine, on s'interroge sur ces annonces de post-grand débat d'Emmanuel Macron, annonces qu'on attend toujours officiellement et qui me rappellent d'ailleurs un terme informatique que doivent bien connaître nos auditeurs, c'est le bug. Le bug, vous savez, c'est quand une machine normalement parfaitement huilée a des hoquets, quand un programme annoncé des semaines à l'avance dérape et finit dans le fossé. Comme par exemple les annonces d'un président de la République censé venir clore très solennellement 4 mois de grand débat et lancer le deuxième temps du quinquennat. Hélas, les flammes qui ont dévoré Notre-Dame, puis les fuites qui ont inondé vos journaux et vos radios semblent bien avoir gâché le moment et créé un bug de communication. Car si l'attention de la nation est aujourd'hui détournée par le dramatique incendie de la nuit de lundi, elle se reportera bientôt sur les questions qui les ont occupées depuis maintenant 4 mois.
Qu'attendent les Français à l'issue de ce grand débat ?
Eh bien, c'est une question que nous avons posée dans ce numéro à Jérôme Fourquet, auteur du best-seller L'Archipel français, dans un long entretien. Il y a une demande de nuit du 4 août face à des élites jugées inefficaces, estime ce politologue. La colère est intacte et même la France qui va bien, le cœur de ceux qui ont participé au grand débat, est très remontée. Et Jérôme Fourquet de rappeler l'exaspération fiscale dans le pays, les demandes parfois contradictoires pour moins d'impôts mais plus de services publics, le rapport compliqué à la transition écologique. L'opinion est plutôt préparée, dit-il, à l'idée qu'il n'y aura pas de Big Bang à la sortie de ce débat. Elle sera surtout attentive à la densité des réponses, au ton employé par le président et au calendrier. Il faudra que l'exécutif réponde rapidement avec quelques mesures fortes sur des sujets emblématiques comme la fiscalité, la mobilité, la démocratie, puis lance progressivement de nouveaux chantiers afin de laisser entendre que le message a été reçu. En creux, en réalité, c'est un projet de société qu'attendent les Français, un récit commun qui viendrait rebâtir des ponts entre les îles éparses de l'archipel français. Cette question du commun taraude la société française, continue Fourquet.
Le risque est de devenir une société s'apparentant à un syndic de copropriété qui n'explose pas uniquement parce qu'il y a des intérêts en jeu pour tous, mais où les citoyens n'ont plus de lien entre eux. Emmanuel Macron semble en avoir en partie conscience lorsqu'il s'accroche à la question du service universel, lorsqu'il surjoue la victoire des Bleus à la Coupe du Monde ou lorsqu'il préside l'hommage à Johnny Hallyday ou au lieutenant-colonel Beltrame. Alors Jérôme Fourquet a répondu à cet entretien avant l'incendie de lundi. Il aurait pu sinon ajouter à cette liste le discours donné hier pour Notre-Dame de Paris, en signe d'unité nationale. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le brasier qui a englouti la cathédrale fait en ce moment oublier celui qui avait dévoré le Fouquet's il y a quelques semaines. Mais il n'y a pas de miracle, il en faudra davantage pour que le pays se relève du chemin de croix des derniers mois.
Grand débat, l'heure des actes, c'est le thème à retrouver cette semaine dans Le 1. Le 1 qui publiera également ce samedi un numéro spécial consacré à Notre-Dame de Paris. Allez, continuez à nous appeler si vous avez été victime d'arnaques, d'escroqueries sur Internet. 01 45 24 7000. Vanessa Paradis interprétée Kiev.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h45, avons-nous vraiment conscience des risques que nous prenons quand nous exposons nos données personnelles, notre identité, notre vie sur Internet? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Avec nous, Sébastien Dupont, qui publie « Vous êtes fou d'aller sur Internet ». Dominique, juste avant le disque, nous demandait si il est... est-ce qu'on peut faire confiance au cloud ou à Google Drive pour protéger ses données?
Effectivement, il se pose la question, est-ce que lui peut déposer ses données dans le cloud? Donc, il y a des services, on peut citer Google Drive par exemple. La réponse est oui, de mon point de vue aujourd'hui, il ne faut pas qu'il hésite à l'utiliser parce que ce sont les systèmes aujourd'hui les plus sécurisés qui existent pour tout un chacun. On ne va pas s'interdire d'utiliser des services aussi peu chers, aussi faciles à utiliser. Le seul bémol, c'est qu'il faut penser à faire des sauvegardes et ces services ne proposent pas encore de façon facile à faire les sauvegardes. Donc il reste un petit sujet là-dessus.
Sébastien Dupont, est-ce que vous utilisez Gmail, Yahoo, Twitter, WhatsApp, Facebook en toute sérénité?
Est-ce que vous avez peur pour vos données personnelles? Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que ce sont des vampires qui se repaissent de nos données personnelles, des données personnelles qui sont triées, chantillonnées, utilisées, manipulées par les algorithmes, et vous le dites, à nos risques et périls. Et ces données personnelles, rappelons-le, sont un énorme enjeu économique et commercial.
Oui, on a pensé que longtemps c'était l'or noir qui avait de la valeur, mais en fait ce sont les données qui ont de la valeur. Ça a une valeur incommensurable, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un sujet d'accaparation, de captation de la valeur.
Vous avez confiance, vous ?
Alors, le sujet, c'est...
Concernant vos données personnelles.
Il y a deux sujets. C'est est-ce que mes données personnelles, confidentielles, vont être divulguées ? Là-dessus, moi, je joue un peu parce que si je me fais pirater, je vais des fois sur des sites, j'ai fait des expérimentations sur des sites de rencontres pour voir comment ça fonctionnait, etc. Donc, c'est pas ça pour moi l'enjeu. Moi, l'enjeu, ce que je me pose, c'est ce qui me gêne, c'est plus quand j'ai des amis qui sont youtubeurs ou des artistes qui sont payés 20 fois moins en publiant sur Facebook que ce qui devrait l'être d'après les associations qui les défendent. Et que ça porte un vrai problème sur les sujets de culture en France et sur les journalistes qui... En fait, vous passez 15 jours à faire un article, vous le publiez et vous avez le lien Google qui récupère la manne financière, commerciale, alors qu'ils ont quasiment rien fait. Le vrai sujet, il est là.
Pierre nous demande, que pensez-vous du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données ?
C'est génial. En tant que citoyen, il faut vraiment s'en féliciter. C'est super, pourquoi ? Parce que avant, il y avait, vous connaissiez la CNIL, qui défend la protection des données à caractère personnel au niveau de la France, et il y avait au niveau de toute l'Europe, X-CNIL. Et aujourd'hui, il y a enfin une unité en ayant pris les meilleures bonnes pratiques pour créer un collectif, et ça permet d'être plus solide vis-à-vis des GAFA.
Et donc ça, GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, voilà. Amazon, voilà. Pour prendre Microsoft.
Pour prendre un exemple de combat, l'UFC Que Choisir a mis 5 ans pour porter un combat vis-à-vis de Facebook. Et ce sont des combats de très longue haleine.
Belle transition avec nous au téléphone. Laurie Lidel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes juriste spécialisée nouvelles technologies à l'UFC Que Choisir. Alors l'UFC Que Choisir, association de consommateurs bien connue, vient de remporter un procès contre Facebook après 5 années de procédure. Le tribunal de grande instance a condamné le célèbre réseau social par un jugement du 9 avril dernier pour non-respect de ses obligations en matière de données personnelles. C'est bien ça ? Alors, quelles étaient les dérives, les défaillances et les abus pointés du doigt par l'UFC Que Choisir ?
Alors, c'est-à-dire que l'UFC Que Choisir a conscience que utiliser les réseaux sociaux est en fait, on va dire, allumer un aspirateur à données personnelles. C'est-à-dire que le consommateur, en utilisant des services gratuits, voit ses données personnelles collectées, exploitées, mais aussi revendues. On voulait donc, en tant qu'association de protection des consommateurs, rappeler cette vérité qui est que le consommateur est presque, on va dire, une marchandise. Donc, dans ce combat qui a duré 5 ans, nous avions voulu augmenter la transparence, permettre aux consommateurs de comprendre davantage de ce qui est fait de ces données, de pendant quelle durée est-ce que ces GAFA peuvent les conserver, à qui est-ce qu'elles les partagent.
Que ne peut plus faire désormais Facebook après ce jugement du TGI de Paris ? Il y aura un appel, mais que ne peut plus faire aujourd'hui Facebook ?
Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook a en fait une sorte de guide grâce à notre jugement, puisque Facebook devra davantage informer les consommateurs sur les façons, par exemple, dont elle va conserver les données des consommateurs une fois que ces derniers auront supprimé leur compte, mais aussi leur demander dans certains cas un consentement explicite, ce qui n'était pas forcément le cas avant dans certaines situations. On avait aussi la problématique de cette revente donc de données de publicité sur les réseaux sociaux, puisque on avait en fait un profilage qui était réalisé sans même que le consommateur n'en ait conscience. Donc on avait cette collecte en fond qui était constante, un suivi permanent donc de l'utilisateur. Et notre enjeu ici était de vouloir rappeler cela et empêcher Facebook de continuer sans mettre ses pratiques en lumière.
Alors l'UFC Que Choisir a également obtenu la condamnation de Google en février dernier et Twitter en août 2018 pour les mêmes motifs. Laurie Liddell, vous êtes juriste. Que conseillez-vous pour protéger nos données personnelles sur Facebook, Google, Twitter, Instagram, etc. Quels sont les conseils de base ?
Alors pour moi, les conseils de base, ça serait tout d'abord de lire les informations données par ces réseaux sociaux pour prendre conscience effectivement de ce qui est réalisé. C'est aussi penser toujours que les données seront conservées pendant une certaine durée, qui normalement devrait être indiquée par les réseaux sociaux, et donc faire en sorte de sélectionner les informations qui seront données pendant l'utilisation. Éviter, sans prendre conscience, par exemple, de poster une photo alors que la géolocalisation de cette photo sera collectée par Facebook. Éviter de mettre des commentaires qui pourraient par exemple plus tard être conservés pendant une très longue durée et donc revenir porter préjudice à un consommateur. Et c'est aussi prendre conscience de la force du consentement du consommateur. À partir du moment où le RGPD a donné plus de force à ce consentement, le consommateur a un droit de dire oui ou non à son exploitation. C'est donc aller dans les paramètres de confidentialité de ce réseau social et paramétrer pour éviter probablement la publicité ciblée, pour éviter le partage des données, la mise en profil public de son profil Facebook, Twitter ou autres réseaux sociaux. C'est donc en fait au consommateur de garder la main sur ses données personnelles et de vraiment prendre conscience que ces actes ont des répercussions sur sa vie privée, mais aussi sur les pratiques des réseaux sociaux.
Julien Bisson.
Oui, la grande difficulté, c'est justement d'arriver à avoir le temps et l'énergie de le faire. Je me souviens très bien quand le RGPD est rentré en service, on se souvient tous qu'à chaque fois qu'on rentrait sur un nouveau site internet, on avait, et on l'a toujours, une page qui disait « Vous pouvez vérifier quel est l'usage que nous faisons de vos données ». Je pense qu'on l'a tous fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, on a arrêté et on a simplement tous cliqué sur « OK ». J'accepte sans même regarder l'usage qui allait être fait de nos données. Donc ça demande un temps, une énergie aujourd'hui qui dépasse généralement celle qui est capable pour le consommateur.
Sébastien Dupont.
Oui, c'est ce qui est intéressant sur ces problématiques. Et je vais prendre un parallèle pour voir l'enjeu légèrement à côté sur les sites de rencontres. Aujourd'hui, quand vous sortez d'un site de rencontre, donc vous allez sur un site de rencontre, et puis à un moment vous dites bon, ben, terminé, j'ai fini l'expérience, je veux. Qui supprime mes données. Il garde les données. Alors, je crois qu'il y a une obligation légale d'un an, mais il faut qu'au bout d'un an, il les supprime. Des fois, ils ne le font pas. Et ce site de rencontre se fait pirater. Et donc, vous avez votre vie privée. Alors, vous pouvez être... le pire des cas, si vous êtes quelqu'un... Alors, il y avait un gars aux États-Unis qui était saoudien, homosexuel. Donc, sa vie privée se retrouve divulguée. Il faut imaginer que dans ces pays, on rigole pas avec...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Avec ça. Donc, c'est des dangers de mort, quoi. Alors, voilà. Donc, il faut anticiper un certain nombre d'enjeux. Et c'est très difficile de faire de l'anticipation, mais en tout cas, moi, je félicite le travail de. Enfin, on ne peut que se féliciter du travail de FC Que Choisir, et il faut prendre des abonnements, faire prendre à notre famille des abonnements, parce que ce sont nos seuls défenseurs aujourd'hui, et il y en a très peu vis-à-vis de sur ces sujets.
Merci beaucoup, Laurie Liddell de l'UFC Que Choisir. Nos smartphones sont de véritables mouchards, Sébastien Dupont.
Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, tout à l'heure je citais...
Est-ce qu'on accorde une confiance sans faille, une confiance trop grande à ces téléphones intelligents? On est trop naïf.
C'est vrai qu'on serait dans le train, dans le métro ou dans des lieux publics, il y a des conversations que l'on n'a pas. Et au téléphone, on a des conversations extrêmement intimes, professionnelles, etc. Et on se peut poser la question des fois de... c'est un ordinateur aujourd'hui, hein, il est assez facilement piégeable. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de 500 000 téléchargements d'un logiciel. Bon, c'est aussi pour les PC, mais ça peut très bien être pour les téléphones. Ce qui est attristant, quand on voit les statistiques, ce sont... alors, j'ai fait une caricature un peu tout à l'heure sur les femmes, je vais en faire une sur les hommes pour équilibrer. Ce sont les hommes qui, dans leur famille, vont installer ce type de logiciel sur le téléphone de leur compagne, ou récupérer les mots de passe en disant à leur compagne « Oui, mais tu n'as rien à cacher, donc donne-moi tes mots de passe ou je peux avoir accès à ton téléphone. » Et qui vont faire une sorte d'emprise, de prise de pouvoir, on peut parler de harcèlement, au sein de la famille. Et ça, c'est dommageable.
Il nous reste très peu de temps. Je vais vous poser une série de questions courtes, réponses courtes. Sébastien Dupont, quels sont les risques quand on connecte son téléphone à un réseau sans fil dans un lieu public, un café, un hôtel, un aéroport ?
Le risque, c'est de ne pas être connecté au site officiel de l'hôtel et d'être sur un site pirate. Et dans ce cas-là, le pirate peut vous récupérer toutes vos données.
On évite de se connecter sur un Wi-Fi public ?
Eh bien, vous avez raison. Moi, aujourd'hui, j'évite de me connecter sur un Wi-Fi public, surtout si vous êtes en France et que vous avez la 4G qui fonctionne très bien. À l'étranger, des fois, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes en prise de risque.
Faut-il se méfier des objets connectés comme Google Home, Alexa, etc. Ce sont des objets très séduisants hein, qui améliorent souvent notre quotidien, mais qui en savent beaucoup trop sur nos comportements. Est-ce que vous avez un objet connecté chez
vous ? Alors, les experts sécurité n'en ont pas. Moi, je suis à deux doigts d'en avoir parce que j'aime bien expérimenter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller et à la fois, il faut rester vigilant. C'est-à-dire que les utilisateurs doivent l'utiliser parce que il faut que, qu'on améliore les services. Donc, c'est le sens de l'histoire aujourd'hui. Mais il faut aujourd'hui que les veilleurs restent très vigilants sur ces sujets parce qu'il y a des dérives possibles.
Que doit faire le gouvernement en matière de prévention des risques sur Internet ?
Belle question.
Non,
moi je pense qu'il faut augmenter un petit peu les effectifs de la CNIL. Ils sont 200.
200 seulement.
Ils sont 200 seulement pour tout le RGPD. Je sais plus combien de plaintes ils ont, mais ça suffit pas. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Donc, il faut augmenter ces effectifs et il faut regrouper tous les services qui travaillent sur ces sujets. Quand j'ai fait le livre pour recenser les 100 pièges, je me suis aperçu que tous les services de l'État étaient isolés physiquement et on peut se poser la question du gain à être regroupés pour mieux travailler ensemble.
Sébastien Dupont, dernière question. Quel est le conseil de base pour éviter que son identité soit usurpée sur Internet ?
Éviter de transmettre ses données d'identité, passeport ou carte d'identité. Des fois, on vous oblige de le faire, donc il faut à tout prix limiter de le faire. Quand vous êtes obligé de le faire à des personnes de confiance...
Mais quand vous demandez après une banque en ligne qui vous demande un scan de votre passeport ou de votre carte d'identité, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc dans ce cas-là, vous faites une photocopie de mauvaise qualité et vous la barrez dessus au stabilo et vous marquez, vous l'avez transmis à telle date, à telle personne, de telle entité, telle banque, pour tel usage. Ce qui fait que si quelqu'un la capte, il ne pourra pas la réutiliser pour ouvrir un crédit à votre nom.
Dernier conseil de base que vous avez envie de donner à nos auditeurs ?
C'est sur le sujet de faut-il se connecter, faut-il se déconnecter ? Moi, il y a deux sujets. C'est faut-il se connecter avec ceux que j'appelle ceux qui ont le bras long. Alors, ils ont le bras long, non pas parce qu'ils ont du réseau, ils sont à Paris. Non, ils sont isolés, ils sont loin, ce sont des personnes âgées. Donc, eux, il faut aller les chercher, s'ils en ont envie, pour qu'ils ne soient pas isolés de l'Internet. Le deuxième sujet, c'est se déconnecter. Déconnectez-vous le week-end, il faut se déconnecter. Il faut déconnecter les enfants, il faut se déconnecter pour les vacances, et je vais vous faire une proposition. C'est par exemple d'aller dans les Cévennes,
chez vous,
sur les routes de Stevenson, écouter l'appel du large et laissez-vous porter par vos battements d'ailes.
Merci beaucoup Sébastien Dupont. Vous êtes fou d'aller sur Internet. C'est publié chez Flammarion et c'est bourré de conseils. Demain, on s'intéresse au nouveau quinca. Ça concerne bientôt Julien Bisson, que certains appellent les quincados. Qui sont-ils ? Quel est leur portrait robot ? À quoi rêvent-ils ? Si vous vous sentez quinquagénaire et adolescent à la fois, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Charles Pélabon et Pierre-Yves de Rolin. Dans quelques instants, Nagui et sa bande originale.